Une rappeuse que j'ai découverte il n'y a pas longtemps qui s'appelle Cupcake. Ça s'écrit comme un cupcake, mais avec deux K.
Oui, ce que j'allais dire, comme Bukake, en fait.
Bravo, bravo, voilà.
Oh putain, j'allais dire, ça s'écrit comme 2K et non pas 3K comme plus clan, mais tu m'as coupé la pied.
Non, non, coupe ça au montage.
Non, mais alors absolument pas.
Un petit bruit buccal.
Rendez-nous les chips.
Subtilement dosé. Le chip est en danger.
Le chip.
Le chip.
Vous écoutez.
Le chip. Vous écoutez.
Le podcast afro d'Arte Radio.
Bonjour, bonsoir, vous écoutez le Chip, le podcast Afropop d'Arte Radio. Je suis Kevi Donna et comme deux fois par mois, je suis entouré de Mélanie Wonga.
Bonjour, bonsoir Kevi.
Et de François Aulac.
Bonjour, bonsoir Kevi.
au sommaire de cette quinzaine, un épisode un peu plus intime, à fleur de peau. On va vous parler de santé mentale. Plus précisément, Mélanie va nous parler de dépression et d'identité. Et puis ensuite, François va nous faire un tour d'horizon de la question dans le rap.
Ouais, donc un épisode full dépression, comme on a dit.
Full on dépression.
Voilà. Full on dépression.
Hier soir, j'ai vu un épisode d'Atlanta qui me poursuit.
Hey yo, you heard that new Paperboy mixtape?
That's my cousin.
You gonna wanna get in there before he gets signed, man.
So, zoo tycoon.
You want in on Paperboy?
L'épisode 6 de la saison 2 sur Teddy Perkins. C'est cet après-midi en fait que je me suis rendu compte de qui jouait Teddy Perkins.
C'est vrai, tu l'as pas reconnu?
J'ai pas reconnu. Ouais. Et ma copine non plus.
Sérieux? Ouais, parce que je trouve qu'au niveau photo, de la bouche, on reconnaît que c'est Donald Glover.
Non. Je suis là, si, c'est ouf.
Voilà. Ouais, donc incroyable épisode d'Atlanta. Je retire ce que j'ai dit la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, en disant la saison 2. Enfin, je pense que vraiment c'est un des meilleurs épisodes de l'année, ouais, de télé, toutes séries confondues. Et du coup, maintenant j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir après. Quoi.
Très très cool.
La casquette YouMad rouge, magnifique.
François, tu attends toujours M6, que M6 rachète les droits d'Atlanta pour continuer, c'est ça?
Non, moi, je vais tout binge-watcher quand
donc
ce sera
dans
sorti.
Un an, on aura ton avis sur l'épisode.
Dans quelques
c'est
semaines.
Exactement ça. Non, je suis trop occupé à jouer à Fortnite et à me faire victimiser par tous les joueurs qui passent. D'ailleurs, si quelqu'un qui écoute le chip joue à Fortnite, n'hésitez pas à m'ajouter mon...
Pour le défoncer.
Non, même pour jouer.
Ah, pour faire une team avec toi.
Exactement, on peut jouer en duo ou en équipe sur Fortnite. Mon blast sur le PSN, c'est Will Smith.
Ah mais je viens de comprendre quoi.
Will Smith.
Quand tu l'avais écrit, je sais, c'est quoi ce truc? Et quand tu le dis, maintenant je viens de comprendre.
Will Smith. W-I-L-S-M-E-F, ajoutez-moi. What's up, Mel?
Tu vois, le printemps arrive, les bourgeons poussent sur les arbres et je suis assez contente de voir la nouvelle musique qui arrive. Donc, je sais pas, le fait qu'on ait eu l'album de Cardi B, que j'ai écouté une seule fois, mais que je trouve plutôt pas mal. Il y a Tinashe, j'ai pensé à toi, François, qui va sortir son album.
Je l'attends de pied ferme. t'as vu le mème de la meuf qui se penche en avant, là?
Oui, mais c'est génial.
C'est comme ça que j'attends l'album de Tinashe.
Il y a l'album de The Weeknd et alors Beyoncé, elle a pas sorti de nouvel album, mais elle a mis sur Instagram et il y a eu des vidéos qu'on filtrait d'elle en train de répéter pour Coachella. Sauf qu'elle répète des chorégraphies que personne n'a jamais vues. Donc tout le monde est là, genre meuf, tes chorégraphies de Crazy in Love et tout, tu les connais par cœur, donc on sait qu'en fait tu vas avoir de la nouvelle musique.
Trop bien.
Donc voilà, on est tous au taquet. Enfin moi en ce qui me concerne. Le trashico.
Trash ou iconique?
Le trashico.
Le trashico.
Est-ce que vous avez vu le clip de Drake?
Mais oui, on l'a vu.
Nice for what? Il est pas mal quand même.
Ouais, mais moi j'ai des choses à dire.
Choses bon, à dire. Vas-y François,
ça
dis-nous.
Tombe bien, moi aussi. J'ai plusieurs iconiques à décerner au clip de Drake. Le clip, évidemment, est extrêmement, extrêmement léché avec néon, installation visuelle, direction artistique digne d'Hollywood. D'ailleurs, le casting, évidemment, du clip est digne de Hollywood. J'ai relevé quelques noms, un casting entièrement féminin, Rashida Jones, Laetitia Wright, Yara Shahidi, Tiffany Haddish, Sid the Kid de The Internet. Est-ce que vous avez vu d'autres gens que vous aimez bien?
Tracy Ellis Ross.
Oui, bien sûr. C'est elle qui danse là au milieu des...
Ah ouais. On dirait Solange de loin.
De ouf. Ouais, de ouf. Moi, je suis très content de ce clip et je lui donne un iconique parce qu'après God's Plan et Scary Hours, on continue de s'éloigner du Drake, dancehall, afropop et je trouve ça très cool. Le morceau sample X Factor de Lauryn Hill, classique incassable,
meilleur album des années 90.
Mais alors, vous avez vu ce tweet qui disait que Lauryn Hill, elle a eu besoin que d'un seul album pour survivre jusqu'en 2018.
Enfin, elle a quand même fait aussi.
Parmi les classiques, quoi.
Elle a quand même fait aussi des trucs avec les Fugees, quoi. Mais oui.
Ouais, mais en album solo, quoi.
Oui, non, mais c'est clair. Le sample de Lauryn Hill est revisité à la sauce bounce music de la Nouvelle-Orléans. Ça aussi, je trouve que c'est assez cool, assez iconique. On entend à un moment la voix de Big Freedia pendant le morceau. On sait que Drake a beaucoup d'amour pour la Nouvelle-Orléans. C'est Lil Wayne qui l'a découvert puis signé. Sur son album Take Care, il avait samplé le Back Dallas Up de Juvenile. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était assez cool sur le morceau Practice. Bref, tout ça, on apprécie. Ensuite, il y a un petit truc quand même qui me fait un peu marrer. C'est les réactions de certaines tweeteuses sur Twitter.
Yes!
Je sais pas si vous avez vu, parce que vous savez, dans le morceau, en gros, il prône la liberté féminine, ouais. Et il dit les meufs, arrêtez d'être
gentils, pourquoi?
Voilà, arrêtez d'être gentils avec les gars. Et toutes les meufs ont fait yes, Drake, yes, my
Mood
lord.
Mood for the summer.
De ouf. Et je me suis un petit peu marré parce que c'est le même Drake donc qui t'appelle bourré à 3h du mat sur Marvin's Room alors que t'es avec un mec. C'est le même Drake qui te fout dans ton téléphone portable pendant que t'es sous la douche, sur leur nose, parce que tu comprends, il est un peu insecure et donc il veut voir s'il y a pas.
Ouais, mais un artiste, ça comprend des multitudes,
oui,
François, tu
sûr.
Vois.
Le même qui trouvait que t'étais une plus gentille fille quand tu mettais plus de vêtements et que tu restais chez toi,
ouais,
tu sais, sur
Reclining.
Ça,
c'était. Mais si.
Ce qui me fait un peu marrer, c'est qu'on a réussi à trouver deux afrofemmes sur Twitter pour essayer d'annuler Kendrick Lamar lorsque Kendrick Lamar dit ouais, bah j'aimerais bien que les femmes soient moins photoshopées, etc. Et là, par contre, quand c'est Drake qui dit. Qui commence à te donner des ordres, là, il n'y a plus personne. Tout le monde dit,
non, mais comme dit Issaré dans Insecure, Drake, il gets us, quoi. Tu vois, on n'arrive pas à dire non.
Enfin, ouais,
les choses sont ce qu'elles sont.
Deux poids, deux mesures.
Exactement.
Il y a un peu de ça, mais c'est juste que le Drake allié des femmes, je connaissais pas, c'est un peu nouveau. Un peu fuckboy sur les bords, mais allié des femmes, c'est un peu nouveau. Mais moi, je l'en veux pas, je trouve qu'on se reconnaît tous dans ce Drake-là, et c'est pour ça qu'on l'aime. Donc, iconique.
Et donc, pour toi, c'est trash?
Non, c'est pas du tout trash, c'était juste par rapport à... X Factor de Lauryn Hill, je trouve que tu disais Drake, il adore tel style, il adore la Nouvelle-Orléans. Drake, il adore tout en fait.
Oui, il a ce côté.
Même Taylor Swift.
Ouais, il a ce côté chevaucheur de vagues. Et c'est pour ça que j'aime pas le voir faire de l'afropop, mais j'ai l'impression quand même que la Nouvelle-Orléans est plus proche de son ADN. Ça fait plus longtemps qu'il rend hommage à cette scène-là. Je préfère le voir faire ça plutôt que l'afropop à la Wizkid.
Ok. Moi, mon iconique cette semaine, c'est une femme noire qui s'appelle Condola Rashad. En ce moment, je regarde la série Billion sur Canal+. C'est des histoires de drama entre des hommes blancs, riches, puissants. Ça me permet de m'évader, j'en vois plus. Je regarde plus de contenu culturel. Avec
où était-il passé?
C'est ça. Donc là, c'est Damien Lewis et Paul Giamatti, deux super acteurs qui s'affrontent dans un truc des financiers véreux, des traders, etc.
When did it become a crime to succeed in this country? Everyone has access to the information, we just know how to analyze it better.
We spotted a suspect trading pattern.
You must get pings like that every day.
All three firms have links to Bobby Axelrod.
Play hard, play clean. Careful out there.
C'est bien ou c'est un guilty pleasure?
C'est super bien. Ouais. Bon, il joue à qui a la plus grosse, mais c'est quand même très très bien. Il y a des personnages féminins assez cool, notamment une femme noire qui joue un personnage qui s'appelle Kate Sacker, donc une espèce de super juriste, super sexy, BCBG, brillante. Et son visage me disait quelque chose, donc je l'ai googlé. Elle s'appelle Condola Rashad. En fait, c'est une actrice de théâtre de 32 ans. Qui est reconnue par la profession et qui a déjà gagné plusieurs récompenses, dont un Tony l'année dernière. Et tous les rôles qu'elle a eus, c'était plutôt des rôles secondaires.
Mmh. Les Tony Awards, c'est les récompenses.
Les Oscars du théâtre.
De Broadway,
ouais, voilà,
Broadway.
C'est ça.
C'est quand même très sérieux.
Et donc, elle est au cœur d'une polémique parce qu'elle va jouer le premier rôle dans Saint Joan. Donc, elle va jouer Jeanne d'Arc, la pucelle.
Et elle est au centre d'une polémique.
Ouais, parce que.
Là, le trait se révolte.
C'est ça. Les gens crient évidemment au génocide blanc. Un peu en mode, maintenant ça commence à bien faire. Jeanne d'Arc, c'est vraiment un symbole que les suprémacistes vénèrent vraiment. Et il y a tout un côté, maintenant ça suffit. Un peu quand ils sont venus chercher Spider-Man, j'ai rien dit. Quand ils vont venir chercher James Bond, j'ai rien dit. Mais Jeanne d'Arc, non. Tu vois, là c'est vraiment, ça passera pas. Donc toute cette polémique, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé il y a quelques semaines du côté d'Orléans. Des gens avaient hurlé au complot franco-béninois. Oui, le lobby franco-béninois, vous connaissez pas?
Ah oui, oui, tu veux dire avec
la
Jeanne d'Arc métisse.
Alors, en fait...
Polémique autour des commémorations de Jeanne d'Arc en France. Comme tous les ans, une jeune habitante d'Orléans est choisie pour incarner l'héroïne nationale lors des fêtes joanniques le 8 mai. Cette année, c'est une jeune lycéenne, métisse, et cela ne plaît pas à la droite identitaire.
Il y a Béatrice Audin-Lamy qui est adjointe au maire d'Orléans, qui a été insultée sur Internet.
Ah d'accord, donc génocide blanc là aussi
ou... Génocide blanc évidemment. Et donc on accuse l'adjointe au maire de faire jouer une sorte de réseau franco-béninois. Elle a tenu à rappeler qu'elle ne fait pas partie du comité qui désigne qui va être Jeanne d'Arc. Donc voilà. Donc,
blanc, c'est les gens les plus faciles à tuer en fait.
ça va loin, mais voilà, je suis content pour Condola Rachat. C'est une putain d'actrice et c'est cool ce qui lui arrive.
Cool.
Ouais. Good for her.
À toi, Mel.
Eh ben moi, j'ai un trash, parce qu'il y en a marre de parler des choses qui font plaisir. On va se fâcher un peu et on va parler de Ready Player One, vous l'avez vu?
Non.
Vous me décevez.
J'irai pas voir ça, franchement. Non.
Ah bon?
Spielberg, c'est une fois sur deux pour moi. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole
virtual universe. The only place that feels like I mean anything. C'était quand même son grand retour au film de divertissement, grand public, parce que depuis quelques décennies, il fait quand même surtout des films sérieux, quoi. Enfin, tu vois, j'ai trouvé ça très, très mauvais. Enfin, après, c'est un film qui est bien mis en scène, parce que Spielberg, il sait faire des films, hein, donc c'est bien mis en scène, c'est bien tourné, les gens sont bien filmés, parfois c'est beau, mais qu'est-ce que c'est con ! Enfin, je crois que franchement, ça faisait au moins 4 ans que j'avais pas vu un film aussi con, quoi. Et on en a vu, hein, des trucs cons cette année. Hein.
Ah bah ça, hein.
Mais en fait, c'est vraiment la vision d'un septuagénaire blanc de la culture geek, tu vois. Okay. Ça prend les geeks pour des bisounours, tu vois. C'est, le personnage, il est comme les personnages des années 80 de Spielberg. Mmh. Alors que la culture geek, on sait tous que c'est hyper misogyne, que c'est hyper raciste.
Il y a au moins quelques aspérités, on va dire ça comme ça.
Quand t'es noir et que tu joues avec un avatar noir...
Il y a des acteurs noirs dans le film.
Alors, il se trouve qu'il y a Lena Waithe, qui est l'actrice... qui était dans Master of None, qui a eu un Emmy pour l'épisode de Thanksgiving de Master of None. Elle a un gros come-up là, en ce moment, donc elle a été castée dans ce film. Moi, j'étais super contente parce que je trouvais que c'est une super occasion de voir une meuf différente dans un film grand public, parce que Lena Waithe, elle est lesbienne et elle est assez masculine. Enfin, c'est vraiment un autre modèle de femme.
Est-ce qu'elle meurt au début du film?
Non, mais elle joue un homme blanc. Elle joue un homme blanc dans le monde virtuel.
Ah bon, elle meurt au début du film, en fait.
Mais non, mais...
Elle joue un homme blanc
dans le monde virtuel. Et dans le livre, elle dit que c'est parce que sinon, elle se fait harceler. Mais dans le film, c'est complètement évacué. On n'en entend pas parler, tu vois.
D'accord.
Et donc, le personnage le sait pas. Et c'est que quand il la rencontre dans la vraie vie, qu'il la voit, il fait « Ah, mais en fait, c'est toi, mon pote H, elle s'appelle. Ouais. » Bon, c'est un second rôle, mais malgré tout, tu vois, elle a pas de backstory. On croit comprendre qu'elle est lesbienne, mais on ne sait pas trop, on n'est pas sûr.
Elle n'est pas obligée d'être lesbienne dans tous ses films non plus.
Non, mais il se trouve que le personnage l'était en fait dans le livre.
D'accord.
Et du coup,
d'accord, en effet, ça pose problème.
Du coup, c'est le seul moment où c'est un peu montré, c'est qu'il y a une scène où il y a une meuf qui vient la draguer. Il se trouve que la meuf est un zombie. Et elle manque de se faire embrasser par le zombie. Mais en fait, tu bouffes de l'hétérosexualité à toutes les sauces dans ces films, mais l'homosexualité, c'est « Ah non, il ne faut pas le montrer », tu vois. Donc, je ne sais pas, enfin... Moi, franchement, je ne recommande pas d'aller voir ce film. Déjà, ça va faire plein de thunes. Mais j'ai vraiment eu l'impression de perdre 2 heures de ma vie. Enfin, bon, voilà. Donc, c'était mon petit trash de la semaine. Film de merde. Et voilà.
Tu veux nous parler de dépression et d'identité? Qu'est-ce que tu entends par là?
Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir comment on vit quand on est en dépression en France et qu'on est une personne racisée. Parce que voilà, ça se rajoute en fait au fait d'être en dépression, tout simplement. Bon, alors, juste petite définition de la dépression, c'est... en fait, ça nous arrive à tous d'être tristes, hein. Des fois, on est content, des fois, on est triste. La dépression, c'est quand la tristesse, ça devient votre état de tout le temps. De manière permanente, on se sent abattu, triste, et on ne sait pas pourquoi. Et ça peut durer des années, et on ne sait pas pourquoi. Alors, dans les faits, la dépression, ça se traduit par des symptômes quand même, de l'anxiété, stress permanent. Des fois, on a du mal à respirer, on a mal, sentiment de solitude aiguë. Alors, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui nous sentons comme ça et que du coup, les autres, ils ont une super vie. Ouais. Ce qui n'aide pas avec les réseaux sociaux, bien sûr. Et c'est aussi, surtout, une impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel. On peut penser que ça, qu'on s'est senti toujours comme ça et qu'on se sentira toujours comme ça.
Ouais.
Et ça, c'est le pire, parce qu'en fait, du coup, ça développe vraiment une impression que c'est inéluctable, quoi, et qu'on ne peut rien faire. Donc, voilà, ça, c'est la dépression. Ce qui m'intéressait aussi, c'était beaucoup de parler dans la dépression dans la communauté noire. Parce que, en fait, dans la communauté noire, c'est souvent vu comme une maladie de blanc. J'ai mis ça entre guillemets. Mais parce qu'il y a un stéréotype c'est que les noirs, ils savent surmonter les épreuves. Les noirs, ils sont forts. Parce que, voilà, ils ont survécu au génocide, à l'esclavage, à la colonisation. Donc, ils sont forts par nature. Et les femmes noires, elles sont souvent vues aussi comme les piliers un peu de leur famille. Elles sont courageuses, elles sont résilientes et elles ne peuvent pas craquer, quoi. Et ça, c'est une forme de déshumanisation, en fait, de dire que, en fait, ils ne sont pas comme les autres. Même si c'est positif de dire ah, ils sont forts, ils sont. Mais en fait, c'est une manière de dire ils ne sont pas vraiment humains.
Et ou de justifier aussi un manque d'attention apporté parce que ces gens-là sont moins susceptibles de souffrir
voilà.
De manque de considération.
C'est comme quand on dit, de toute façon, ils ne sentaient pas la douleur. Enfin, tu vois, c'est un peu ça, quoi.
Ouais.
Et il y a aussi le fait, ça c'est une autre question, mais qui est assez, assez centrale, c'est que les cultures, la culture africaine et la culture occidentale sont différentes. C'est-à-dire qu'en Afrique, on vit plus ensemble. Et donc, on a l'habitude de résoudre les problèmes au sein du groupe, au sein de la communauté. En France et dans d'autres pays occidentaux, on est plutôt quand même dans des sociétés individualistes où quand tu as un problème, généralement, c'est toi qui les résous toi-même, quoi. Et il y a aussi une peur d'être vu comme faible. Et ça, c'est, je pense, dans les deux situations. Quand tu es en dépression, tu ressens une espèce de honte parce que tu te dis qu'il n'y a que toi qui es comme ça. Donc, tu n'as pas envie que les autres te voient comme étant quelqu'un de faible. Donc, tu n'en parles pas. Donc, ça empire la situation. Et dans les deux situations, je pense que ça se retrouve. Il y a aussi le cas surtout des Africains qui arrivent en France. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment une spécificité dont on ne parle pas beaucoup. C'est que l'isolement géographique, le fait que quand tu arrives d'un pays étranger, que tu arrives en France et qu'il y a une différence culturelle, que tu te retrouves peut-être seul, donc il y a vraiment la solitude qui s'ajoute. On peut aussi parler du racisme. Quand tu arrives en France et que tu es noir, tu comprends que tu es noir. Alors qu'en Afrique, tu étais juste quelqu'un, quoi. Bah là, tu arrives et tu deviens noir et tu vis différemment. Et ça peut provoquer des difficultés d'adaptation. Et du coup, ça provoque en retour la dépression. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est que la personne qui arrive en France, qui vient d'Afrique et qui est en dépression, il y a une impossibilité d'expliquer à la fois à la famille de là-bas, parce que la France, c'est un pays où il y a de l'argent, c'est un pays où tu as de la chance d'être venu. Et du coup, il y a une incompréhension de ce côté-là. Pourquoi tu serais malheureux si tu es en France ?
Est-ce que tous les Africains aujourd'hui voient vraiment encore la France comme, comme l'Eldorado, comme ça ? Enfin, il y a aussi des gens qui savent comment ça se passe, tu vois.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient encore ça comme ça. Et il y a aussi l'incompréhension de la société française qui, en retour, se dit, mais déjà, comme les stéréotypes dont on a parlé, et on les plaque sur la personne, on se dit, bah, de toute façon... Et puis, il y a vraiment ce stéréotype raciste, quoi. C'est-à-dire, on ne se soucie même pas de savoir si une personne noire peut être en dépression en France. Enfin, ce n'est pas traité, en tout cas, sous cet angle-là, dans la psychologie en France, quoi. Je peux parler de mon expérience personnelle. Ouais. Alors, moi, je ne viens pas d'Afrique, je suis née en France, mais j'ai une expérience de la dépression. Donc, la première fois que j'ai réalisé que j'étais en dépression, c'était il y a 6 ans, à peu près. Il y a eu un élément déclencheur. J'ai eu une rupture amicale. C'est-à-dire que j'ai vraiment, avec ma meilleure amie, on a cessé de se voir. Et il y avait aussi des problèmes familiaux qui étaient ajoutés à ça. Et donc,
une rupture amicale.
Bah, ouais. Quand tu es très proche de quelqu'un, des fois, ça peut quand même avoir une influence forte.
J'ai tendance à penser que les ruptures amicales sont plus douloureuses et plus inhabituelles également que les ruptures amoureuses. Moi,
ça arrive moins souvent déjà dans ta vie.
Ça arrive moins souvent. Amoureuse. Et puis surtout, je trouve que les ruptures amoureuses, c'est facile à rationaliser. Bah ouais, ça fait partie du jeu. Quand tu te mets avec quelqu'un, forcément, tu vas rompre un moment, à moins que ce soit la dernière, justement. La bonne ou le bon.
The one.
Ça devient un cycle, c'est beaucoup plus facile de rationaliser. Alors qu'une rupture amicale, c'est dire à quelqu'un, ou ne pas le dire dans certains cas, on va plus se voir.
Ouais.
Pas pour zéro raison, mais alors qu'on pourrait continuer à se voir, parce qu'on n'est pas des ex, on n'est pas des...
Oui, il n'y a pas de relation d'exclusivité. Est-ce que tu vois, j'ai un autre ami, je
ouais,
peux plus être
ouais,
avec
ouais, voilà,
toi.
Donc je trouve que ça peut être même plus difficile à encaisser.
En plus, comme tu dis, on peut se le dire ou pas se dire, dans mon cas, on ne s'est rien dit, en fait. Et ouais. Donc, c'était, ça n'a jamais été vraiment résolu. Et, mais c'est arrivé un peu du jour au lendemain. Et en fait, je me suis sentie, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un truc en moi qui s'était effondré, quoi. Bon, il y avait d'autres choses qui n'allaient pas non plus au niveau de ma vie familiale. Mais déjà, donc, je voulais que personne sache que je n'étais pas bien. Et je me suis coupée des autres. Du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, dans ce cas-là, si je n'ai pas réussi... avoir une amie à qui je tenais autant et à pouvoir rester avec elle, ben c'est que voilà quoi, j'ai pas besoin d'avoir d'autres amis quoi, no new friends.
Il y a une citation de Drake pour toute situation de la vie. Sachez-le.
Et du coup, je me suis enterrée moi-même dans une solitude totale quoi, dans un espèce de bunker émotionnel. Et à l'exception de mon mec avec qui j'étais, avec qui je suis encore. Et au bout de 3 ans, en fait, de ce rythme-là, où vraiment ça devenait difficile et j'avais tous les effets full force de la dépression, j'ai commencé ce qu'on appelle une thérapie cognitive. Donc, c'est la thérapie TCC. C'est une forme populaire de psychothérapie qui aide à découvrir, approfondir et modifier les schémas de pensée et les réactions. Et du coup, ça vise à remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées en adéquation avec la réalité. Par exemple, tu rates un truc, tu dis « je suis une merde ». Tu dis suffisamment de fois « je suis une merde », au bout de plusieurs années, tu finis par le croire. Moi, en l'occurrence, ce que je me disais, c'était « personne ne m'aimera jamais ». Et je me répétais ça, je me suis répété ça pendant 3 ans. Et donc, au bout de 3 ans, c'était devenu une vérité pour moi. Je me disais « de toute façon, ça ne sert à rien ».
Une sorte de mantra « personne ne t'aimera, personne ne t'aimera ».
Non, mais c'est ça, je me disais « de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut aimer ». Et c'est dur.
Ton thérapeute ou ta thérapeute.
Ma thérapeute.
Ta thérapeute, elle était blanche ?
Oui, elle était blanche, mais on avait le même âge. Alors souvent, avec ton thérapeute, de ce que j'en ai lu, il y a une espèce de relation qui se met en place. Des fois, il y a des transferts et tout. Et moi, j'avais vraiment l'impression de me retrouver avec une fille de mon âge et parler de choses de ma vie qu'elle pouvait comprendre. Elle était pas, c'est pas comme si elle avait 20 ans de plus que moi, par exemple. Donc ça m'a beaucoup aidée, en fait, la thérapie. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et à ce moment-là, j'avais plus de travail, je restais la plupart du temps à la maison, je voulais voir personne, j'avais aucun projet en parallèle et je voyais pas d'issue à ma vie, quoi. Je me disais que ça serait toujours comme ça.
Moi j'ai une question sur la partie identitaire. Est-ce que tu as essayé d'en parler, par exemple, avec ton père, qui est, lui, ivoirien ? Est-ce que tu as senti un décalage, par exemple, culturel ? Entre toi, tu dis voilà, je viens pas d'Afrique, je suis né en France, mais voilà, tu es d'origine africaine. Est-ce que tu as senti ce décalage de quelqu'un qui est né en France, qui a grandi en France avec des amis français dans un environnement français, etc., qui essaye d'en parler à quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui a peut-être pas une culture où on dit bah écoute, va chez le psy, je te conseille tel truc, telle thérapie cognitive. Non.
Ouais. Il y avait 2 choses. Il y a le fait que mon père faisait partie des raisons qui ont fait que j'ai fait une dépression. Et il y a le fait aussi que mon père lui-même, je pense, a une dépression non diagnostiquée depuis plusieurs décennies et qu'il n'a jamais cherché à se soigner vraiment, quoi. Donc c'était assez compliqué à évoquer, mais je pense que clairement, ce qu'on disait sur le fait que quand tu es africain et que tu arrives en France, je pense que lui, clairement, il a vécu ça, quoi.
Est-ce que tu as eu le sentiment, avant, après, pendant ta thérapie, est-ce que tu as eu des moments où vraiment tu sentais que non seulement tu étais une personne en dépression, mais que tu étais également une personne racisée en dépression?
En fait, ce que je me rappelle, parce que c'est ça qui est aussi bizarre, c'est quand tu es en dépression, ça peut durer pendant une très longue période de temps, et une fois que tu n'es plus dedans, tu ne te souviens plus trop ce qui s'est passé. C'est assez bizarre comme sensation. Mais ce que je me souviens, c'est qu'à ce moment-là, je me suis harcelée sur Internet, à cette époque-là, donc ça, c'était magnifique. Et je me rappelle que j'avais eu des insultes racistes, et que ça s'était ajouté à tout ce que je vivais et ressentais déjà. Et j'avais absolument pas la force, en fait, d'essayer de, tu vois, de contrer ce que je recevais, quoi, comme insultes racistes. J'avais plus d'estime de moi-même, mais de me dire non, attends, ça c'est rationnel, ça l'est pas. Je croyais tout ce qu'on me disait de négatif sur moi et j'en rajoutais en plus moi-même derrière.
Tu te souviens de ce que nous a dit Marie da Silva quand on l'a reçue dans le chip? Pour ceux qui ne se souviennent pas, Marie da Silva, c'est Napili Kayo, alias la snatcheuse de France, donc, qui accompagne les femmes racisées, victimes de racisme et de sexisme en entreprise, et qui nous disait que lorsque l'une de ces femmes, parfois, se présente chez un psychologue et qu'elle parle des oppressions racistes qu'elle peut subir, souvent les thérapeutes sont victimes de biais en fait et ils comment dire c'est pas qu'ils comprennent pas ce qu'est le racisme, voilà
trop...
ils ont tendance on va dire à ne pas prendre en compte, à pas prendre la question à bras le corps et à relativiser ça. Est-ce que par exemple toi, soit de la part de ta thérapeute, soit de personnes de ton entourage, parce qu'en plus tu vis dans un environnement en majorité blanc, est-ce que parfois tu t'es senti isolée à cause de ta couleur?
À ce moment-là, doublement, je me sentais seule, parce que je me sentais seule à cause de la dépression. Et quand j'ai vécu ça, il n'y avait absolument personne qui pouvait me dire...
Prendre ça au sérieux et voir ce que ça représente.
Parce que soit j'avais des gens de ma famille qui me disaient... Enfin, mon père, par exemple, qui n'en avait rien à foutre d'Internet et qui me disait « Mais t'as qu'à fermer l'ordinateur, quoi, si t'es pas contente !» Et sinon, j'ai été confrontée à des gens. Puis c'était il y a longtemps, tu vois, c'était pas du tout la même...
La même configuration, le même écosystème, c'est pas le même paysage, ouais. Effectivement.
Ouais. C'était très différent.
Moi, il y a une référence qui m'inspire sur ce sujet-là, c'est un podcast d'Arte, un podcast à soi. L'épisode de la semaine dernière, présenté par Charlotte Bien-Aimée sur les flamboyantes, où elle rencontre plusieurs femmes qui parlent de plein de questions, plein de questions qui concernent les femmes noires. Et il y a une femme qui s'appelle Malika Mansouri.
Il est difficile de se défaire des chaînes intérieures dont m'a parlé Malika Mansouri. Elle est psychologue clinicienne en protection de l'enfance et maître de conférences en psychologie et en politique transculturelle à l'Université Paris-Descartes. Elle raconte comment les traumatismes liés à l'histoire se transmettent de génération en génération.
Ce n'est pas l'autre aujourd'hui qui me dit que je suis moche nécessairement. C'est l'autre d'hier qui a dit, et c'est moi qui le dis aujourd'hui pour moi-même. Ça, c'est quelque chose de terrible parce qu'au fond, on peut lutter contre les discriminations, même si c'est difficile, hein. On peut lutter contre celui qui nous domine dans la réalité. Mais comment lutter contre cette domination intégrée, intérieure, et qui nous soumet à nous-mêmes?
Et qui dit que les traumatismes se transmettent. Et quand tu racontes, tu parles de l'expérience immigrée, qui est une expérience aussi qui s'accompagne de son lot de traumas, de choses comme ça. Ouais, d'une certaine façon, c'est pas surprenant que l'expérience de ton père, des choses comme ça. Enfin, après, je suis pas expert, mais ouais.
De toute façon, déjà à la base, nos parents nous transmettent, on va dire, quelques petits problèmes. Mais ouais. Effectivement, je pense que dans ce cas-là, ça se ressent beaucoup, quoi.
L'enjeu de la pression que les parents immigrés mettent sur leurs enfants, donc enfants d'immigrés, c'est une problématique en fait assez universelle. Par exemple, Thomas Njijol, il en parle.
Ouais.
Boum, 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 boum. Ma vie est foutue. Boum, 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 boum. Mes enfants m'ont bafoué. Boum, 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 boum. Le loyer n'est pas encore payé. Boum, boum, boum. Et ma femme ne fait que prier. Ah, j'ai le blues de l'immigré. Boum, 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 boum.
Y a Ali Wong, qui est une humoriste américaine, asiatique, qui a un special assez incroyable, où elle parle de décalage, en fait, entre, par exemple, des parents qui sont nés dans un pays en guerre et qui voient leurs enfants naître dans des pays occidentaux et faire « je me sens un peu déprimé en ce moment, ça va pas ». Enfin non, mais c'est inacceptable comme type d'attitude, on peut pas entendre ça.
Ouais. Non, mais ouais, il y a vraiment une différence culturelle et je pense que c'est d'autant plus difficile quand t'es racisé en France, parce que t'as un peu le cul entre deux chaises. À la fois, on te dit oui, ça existe, mais pas pour toi. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. Pour finir, je voudrais juste donner quelques clés, le peu que j'ai appris. Même si c'est émotionnellement, on se sent... Enfin, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire parce qu'on n'a pas envie de se montrer comme étant faible ou comme on se dit que ça va passer, on se dit que ça va aller mieux, qu'on va régler nous-mêmes nos problèmes et qu'on n'a pas besoin d'aller voir un médecin ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il faut aller consulter, quoi. Faut au maximum sortir de son isolement. Si vous n'avez pas la foi d'en parler à des gens autour de vous parce que vous avez peur qu'ils vous prennent pour quelqu'un de faible, allez voir un médecin, allez voir un psy et parlez-en à un psy, quoi. Et à noter, il y a des psys africains.
Est-ce qu'ils sont constitués? Est-ce qu'il y a des collectifs, des assos vers lesquels se tourner? Peut-être
non,
pour les
malheureusement.
Trouver plus facilement un compte Twitter.
Bah, tu sais, on est en France, hein, c'est un peu compliqué de se constituer en association en disant voilà, nous on est des psys racisés, on accueille des personnes racisées.
Ouais, il aurait pu avoir des blogs, des comptes, des trucs comme ça. J'ai découvert un collectif sur Twitter. Alors je les ai followés, elles m'ont pas follow back quand je les follow. Je farfouille un peu, mais j'aimerais bien m'intéresser à leurs actions et à ce qu'elles font. Qui s'appelle Globule Noir. Alors
c'est tout nouveau, c'est assez récent.
Ouais, c'est assez récent. C'est pas exactement du coup sur la santé mentale. C'est plus sur le milieu hospitalier et médical en règle générale. Et c'est un collectif qui étudie ces questions, les questions de personnes racisées, notamment de négrophobie, dans le milieu hospitalier, que tu sois interne en médecine ou patient ou patiente. Il y a des problématiques qui sont liées au fait que tu es racisé et que, encore une fois, en France, on a du mal encore à saisir.
À mettre des mots sur ça.
Voilà, et elles n'ont encore rien publié, en fait. C'est pour ça que je dis que
Mais tu les as déjà repérées.
Voilà, c'est ça. Du coup, je dis que je farfouille parce que je n'ai pas encore pu lire un truc d'elles en leur propre nom. Pour l'instant, elles font beaucoup de retweets et de choses comme ça. Mais en tout cas, je suis ce qu'elles font de près et j'ai hâte de voir ce qu'elles vont me proposer, quoi.
Ouais. Juste pour terminer, je voulais dire que Chimamanda Ngozi Adichie, autrice de, entre autres, Americana, est dépressive et elle a écrit sur sa propre dépression et je voulais juste citer une phrase de ce qu'elle avait dit, enfin un petit paragraphe. La dépression est difficile, c'est difficile de la vivre, difficile de l'écrire, difficile d'en parler ouvertement, mais c'est ce que j'ai voulu faire pour moi d'une certaine façon, parce que ça m'a forcé à me raconter ma propre histoire, ce qui est toujours utile, mais aussi pour d'autres personnes dépressives, parce qu'il y a quelque chose de très puissant à savoir que l'on n'est pas seul et que ce qui vous arrive, arrive aussi à d'autres gens. Et là, elle parlait en fait des personnes africaines. Donc, voilà. Merci Chimamanda.
François va alléger l'atmosphère en y mettant de la musique.
Ouais, je vais essayer. Ouais. On parle de dépression et de santé mentale et je trouvais intéressant de mettre mes two cents sur le sujet, mais en prenant la perspective de la musique rap. Je suis un peu comme Kevy qui aime deux choses dans la vie, le stand-up et sa chérie. moi, j'aime beaucoup le rap.
Il a eu chaud, ça a failli le mettre dans la merde.
Depuis quelques temps, j'écoute pas mal Lil Skies. Est-ce que vous connaissez Lil Skies ?
Non.
C'est un jeune rappeur de 19 ans, originaire de Pennsylvanie, qui est en train de cartonner en ce moment avec un énorme tube qui s'appelle Red Roses. Friends wanna be friends when you doing the most. How you tell me you my bro, then you went out and told. Niggas say they down the ride, but be folding like clothes. Purple hearts all on my garment, I ain't trusting a soul. I roll up to Mary Jane, no they can't feel my pain. I'm still trapping every day, I think I'm stuck in my ways. Plus de 63 millions de vues sur YouTube. Il a déjà une tournée plus ou moins internationale en cours de route. Le morceau parle de coucher avec des jolies filles, mais aussi de consommer de la drogue pour atténuer ses souffrances. Oh. Et puis du fait aussi d'être trahi par ses faux amis, tu comprends, qu'ils lui mettent des couteaux dans le dos.
Qui ont du fake love, comme les amis de Drake.
Exactement, du fake love.
Il est partout.
Voilà, le tout sur une prod moitié trap, moitié mélancolique. Son premier album officiel qui vient de sortir, qui est sorti en janvier, plus précisément, s'appelle Life of a Dark Rose. C'est un album très solide, j'ai beaucoup aimé. Et je suis particulièrement content d'avoir découvert Lil Skies parce que c'est le premier emo rappeur que j'arrive à apprécier. Alors les emo rappeurs, pour vous les situer, c'est ces mecs qui sont un peu, vous savez, maigrelets, avec des tatouages au visage, des petites locks colorées, ouais. Évidemment, et un style vestimentaire et également dans l'esthétique plus générale qui rappelle un peu le punk rock et l'emo rock. Donc c'est le pur produit du rap SoundCloud, c'est les Lil Uzi Vert, ouais. C'est les Lil Xan, Lil Peep, Lil Tracy, il y a beaucoup de Lil. Hein.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un code ou
c'est les nouveaux Young en fait.
Voilà, exactement, ouais. c'est le Young des années 2010. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en règle générale, il y a toute cette vague de nouveaux rappeurs marche énorme. Il y a XXXTentacion, j'avais oublié notre ami XXXTentacion. Et donc tous ces mecs-là,
je suis pas ami avec, hein.
Ouais. Personne. Il y a quand même eu un petit, bon bref.
Mais bon, vous savez, tous ces artistes qui, je sais pas, ils ramènent un côté un peu écorché vif. Vous savez un peu, je sais pas si vous avez écouté du emo rock, genre.
Evanescence.
Pas Evanescence, mais je dirais plutôt My Chemical Romance.
Kevy se sauve quoi, mais non.
Jamais. Non, mais j'ai un truc à dire pour le coup.
Tokyo Hotel.
Oh, yeah right.
Ah, c'était ça.
Garde la pêche, non mais jamais.
Ah non, ok d'accord.
Ah le mec.
Non mais bref, voilà, j'ai toujours eu un peu de mal avec les emo rappeurs, à part le morceau Exo Tour Life là de.
Ouais.
Évidemment qui est mortel.
saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. Push me to the edge.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'introspection et plus généralement toutes les questions de dépression et de santé mentale, la tristesse, le blues en général, c'est pas nouveau dans le rap. On peut remonter jusqu'à Grandmaster Flash en 82 sur le morceau The Message avec le fameux refrain « Don't push me, cause I'm close to the edge.
I'm trying not to lose my head. »
Voilà qui est le premier, finalement l'une des premières rimes qui parle du fait de perdre les pédales dans, face à un environnement hautement paupérisé, hautement dangereux, avec beaucoup de drogue et choses comme ça. On peut penser également à Notorious B.I.G., Suicidal Thoughts en 1994. On peut penser à Ghetto Boys, le groupe iconique du sud des États-Unis, avec My Mind is Playing Tricks on Me, qui date également de 1994 et qui parle de schizophrénie et de stress post-traumatique, le PTSD, comme on en a à la guerre, sauf que là, c'est du stress post-traumatique lié à la vie dans le ghetto, donc c'est quelque chose d'assez, d'assez inédit. Bref, petit souvenir français également.
Je vais me foutre en l'air comme Patrick Deverme, drogué aux aspirines façon Marilyn. Oh, il faut que je me supprime comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le Nirvana comme Bérégo voit, clic clic boum.
Doc Gynéco, Nirvana, bien sûr.
Ou alors, je pète les plombs.
Mais en mode cartoon. Ouais, tu vois, c'est pas pareil. Tout ça pour dire que voilà, l'introspection et la tristesse dans le rap, c'est pas nouveau. Il y a une sorte de prise de conscience plus générale, plus globale. Ça a d'abord commencé à la fin des années 2000 avec 808 and Heartbreak de Kanye West, qui a donné lieu à toute une nouvelle génération de rappeurs. J'ai parlé des emo rappeurs qui sont les tout jeunes rejetons qui ont leur propre sous-genre, le emo rap. Mais évidemment, il y a Drake, Childish Gambino, J. Cole, Kendrick Lamar, bien évidemment, Tyler, the Creator, Earl Sweatshirt, qui a fait un album quand même qui s'appelle I Don't Like Shit, I Don't Go Outside, donc ça vous donne un peu le ton. Il y a Isaiah Rashad également, que j'aime beaucoup, qui parle de ses problèmes, de sa relation compliquée avec son père, qui parle également de ses problèmes d'alcoolisme et de dépression. C'est un rappeur qui est très vocal à ce sujet. On peut aussi parler de Kid Cudi et de Kanye West, qui ont tous les deux rendu très public fin 2016, vous savez, leurs hospitalisations pour dépression, ouais, et envie suicidaire.
Kanye a craqué et fait une photo avec Trump avant d'aller se faire hospitaliser.
Exactement. Ouais.
C'est ce qu'on fait en général avant d'aller sur Internet.
Tout ça pour dire que l'introspection et la dépression dans le rap, c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais là, il y a une prise en compte plus générale qui est intéressante et dont, en fait, l'emo rap n'est qu'une émanation, si vous voulez. C'est pas les emo rappeurs qui ont inventé la dépression dans le rap, c'est vraiment, la dépression est tellement devenue mainstream aujourd'hui qu'il y a un sous-genre et c'est tout à fait normal.
Et mal du 21e siècle, c'est ce qu'on dit souvent.
Exactement.
Maladie mentale.
Je trouve que cette prise de conscience vraiment globale des problèmes mentaux et de l'importance de sentir bien dans sa tête dans le rap, je trouve ça super bien pour trois raisons. On a déjà parlé dans le chip des tropes de la masculinité toxique et de la masculinité noire. Et je trouve que le fait que les rappeurs aujourd'hui soient beaucoup plus en contact avec leurs émotions, beaucoup plus honnêtes aussi par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir, c'est intéressant parce que ça fait tomber l'injonction sociale et culturelle qui pèse sur les hommes noirs, évidemment les afro-américains, mais pas seulement, on peut aussi parler des hommes noirs français. Ça fait tomber cette injonction à ne pas montrer leurs émotions et à rester tout le temps solide. Donc ça, je trouve ça intéressant. La deuxième raison, c'est que le fait de rendre les rappeurs plus humains et plus accessibles, ça va forcément les enrichir en fait en tant qu'artistes et ouvrir le hip-hop finalement à d'autres horizons, à d'autres moods. Pendant longtemps, le hip-hop, ça a été une musique plutôt rebelle, plutôt résistante, plutôt aspirationnelle aussi dans les années 90. Là, on découvre du hip-hop, on le découvre pas du coup, mais on a toute une nouvelle
facette, quoi.
Ouais, voilà, on a toute une brand de hip-hop qui est plus émotionnelle, plus mélancolique. Aujourd'hui, on peut pleurer, on peut très bien pleurer sur son ex en écoutant du rap. ça peut paraître drôle comme ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui dans les années 90, par exemple, aurait été beaucoup plus impensable.
Ouais. Et dans les années 80, c'était plus pour faire la fête.
Ouais, voilà. Enfin, il y avait aussi du hip-hop conscient, bien sûr, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui n'a jamais été aussi important. Et je trouve ça cool. Et ensuite, la dernière chose, c'est que j'aime le fait qu'on fasse tomber le cliché, en fait, selon lequel le rap ne peut pas être une musique complexe, intellectuelle ou émotionnelle, justement. Je trouve que c'est un cliché qui est encore largement répandu et, soit dit en passant, légèrement teinté de négrophobie. Parce que, ouais,
c'est une musique noire, donc si vous venez pour de l'introspection, de la réflexion,
ici, on est là pour danser.
On est là pour danser, manger du poulet.
Non, voilà, l'homme noir qui est perçu uniquement comme un corps et non pas comme un être sensible, bien sûr que c'est un cliché négrophobe.
Deux choses, enfin surtout une, mais deux. La première, c'est oui, dans ce que tu dis, je suis d'accord, il y a peut-être une évolution culturelle, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement une évolution de, enfin tu l'as mentionné, mais rapidement, une évolution des drogues qu'ils consomment ?
Ouais,
oui. C'est-à-dire que traditionnellement, si tu bois du Jack Daniels je sais pas, que tu consommes certaines drogues, tu vas pas avoir la même. Tu vas pas faire la même musique que si tu prends du LSD ou que si tu prends du Xanax. Et par exemple, le Xanax qui pendant très longtemps a eu une image de drogue un peu de mère de famille, justement déprimée, etc.
T'arrives pas à dormir.
Maintenant, c'est la drogue des rappeurs du sud d'Atlanta.
Ouais.
Ou alors les mecs se bourrent de sirop pour la toux mélangé avec du Sprite, le Lean. Donc fatalement en fait, ça va faire un produit différent.
Comme des réactions chimiques dans le cerveau différentes.
Évidemment, évidemment, ils sont pas dans le même état, ils produisent pas la même chose. Et le deuxième truc, c'est est-ce que aussi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change, dont il y a des barrières qui bougent sur la question raciale, parce que ces jeunes rappeurs dont tu parles de l'emo rap, leur esthétique. Tu parlais de beaucoup de dommages au grunge et au punk, qui sont traditionnellement des musiques perçues comme des musiques blanches.
Ouais.
Est-ce que ça explique pas aussi le fait qu'ils ramènent peut-être des sujets qui auraient pu plaire à Kurt Cobain
Totalement, ouais. Totalement. Bah, ouais. Regarde, Lil Uzi Vert, ça, combien de fois il s'est revendiqué de Marilyn Manson. Pour lui, c'est sa plus grande idole. Et même au niveau du style vestimentaire, il aime bien les clous, les trucs comme ça. On aime beaucoup le charrier, d'ailleurs, à ce propos. Ouais, totalement, totalement. Et c'est ça que j'aime, en fait, dans les mots rap. C'est le fait que de pouvoir démontrer par A plus B que le hip-hop peut également brasser ces thèmes-là et peut parler de ces choses-là. Le hip-hop, c'est la musique la plus vivante, la plus rentable.
Et la plus large.
La plus cool, la plus variée, exactement. Qui soit. Donc, encore une victoire pour le hip-hop, encore une victoire de canard. Et il y a une dernière chose, c'est qu'en plus, cerise sur le gâteau, plusieurs maintenant études universitaires tendent à démontrer que le hip-hop pourrait même servir de thérapie aux maladies mentales. Je prends pour exemple ce duo de chercheurs de l'université de Cambridge qui en 2014 a monté un projet appelé Hip-Hop Psych. Qui visait justement à soigner la dépression et autres troubles de la personnalité via les lectures et des performances justement par les patients de paroles de hip-hop.
C'est pas la musique des blancs, la Radiohead, qui va vous sortir de vos dépressions.
Ah bah...
voilà, c'était juste j'avais besoin de le placer.
Le petit coup gratuit.
Voilà,
c'était...
Ce que les deux chercheurs de hip-hop psych font valoir, en fait, c'est que, la plupart des artistes du rap viennent de milieux justement largement paupérisés, avec beaucoup de menaces à la fois physiques et mentales, ils viennent souvent de foyers eux-mêmes ravagés par des problèmes de drogue et de choses comme ça. Logiquement, le hip-hop est une musique de résilience et une musique également qui permet de mettre en mots et de verbaliser la maladie mentale. Et donc apparemment, ces deux chercheurs utilisent justement les paroles de hip-hop pour aider les patients à mettre des mots sur ce qu'ils vivent et justement à mieux le surmonter. Donc je pense que ça fait une musique plus vraie, plus humaine et encore plus cool, quoi.
Donc thérapie cognitive, hip-hop et vitamines. C'est bien les vitamines aussi quand on manque de soleil.
Ouais, et puis allez au concert de Lil Skies. Il passe à Paris, à la Bellevilloise. Si vous habitez à Paris, allez à la Bellevilloise le 30 mai. Moi, je vous conseille d'y aller.
Tu y seras ?
Ouais, moi j'y serai.
On te fera des câlins.
Les recommandations du chip.
Qu'est-ce que tu nous recommandes cette quinzaine ?
Eh ben, je vous recommande le cycle d'écriture de quelle couleur est ta peau noire. C'est un atelier d'écriture en 3 volets organisé par la revue Ataillé et Laurane Safou, alias Mrs. Root sur Twitter. Donc en fait, c'est des ateliers, c'est 3 sessions où l'objectif, en fait, c'est de réfléchir, entre autres, à comment on écrit des personnages noirs dans la littérature, mais qui ne sont pas décrits avec des termes colonialistes, comme on les connaît tous, hein, la peau d'ébène, de chocolat, la crinière de tigresse,
les doudous,
le cheveu de
les
coton,
foulards, les madrasses, la mama, la doudou.
Voilà, donc tout ça, on en a marre, ça nous fatigue, on est une nouvelle génération d'auteurs et on veut écrire différemment. Donc en fait, c'est vraiment déconstruire les stéréotypes. Le 28 avril, on a le premier atelier qui est complet malheureusement, qui s'appelle « Déconstruire un imaginaire colonial ». Mais les deux autres, il y a encore des places disponibles. Le 19 mai, ce sera « Identifier son lecteur » et le 30 juin, « Au-delà des clichés, genrer la réinvention ». Les 3 ateliers sont dimanche le matin, c'est au Hasard Ludique à Paris. On connaît, on aime bien. Arte, il fait des fêtes de temps en temps. Et donc moi, en ce qui me concerne, j'ai pris un pass pour les 3 ateliers, donc j'y serai. Et je trouve que c'est une super initiative en française, en fait. Je trouve ça bien. J'espère que ça va.
Lani vient de nous annoncer son roman en live dans le chip, là.
Non, mais trop pas, arrête. Me mets pas la pression.
C'est cool. L'amoureux de ma maman, qui est une création sonore d'Arte Radio.
Arte.
Je le ferai à chaque fois, je te lâcherai pas.
T'oublies toujours le point com.
Ah, c'est vrai.
C'est un docu audio de Bintou Diarra. C'est une Bintou Diarra est française d'origine ivoirienne. Elle raconte l'histoire de sa mère, Catherine, veuve immigrée ivoirienne de 82 ans qui retrouve l'amour au troisième âge.
Je m'appelle Bintou Diarra et je découvre ma mère, Catherine, amoureuse pour la première fois.
Votre maman qui est là, vous l'avez pas vue sa jeunesse. Elle était vraiment belle. Si jamais il y avait Miss de Côte d'Ivoire, elle serait Miss.
Et c'est rare, c'est
tendre. Ah oui, je l'ai vu passer.
Voilà,
c'est
super bien. On entend donc Catherine, donc la maman qui se confie, mais pas beaucoup. Elle reste très vague et très pudique et très discrète sur sa vie sentimentale, amoureuse, etc. On entend aussi parler Antoine, qui en fait connaît Catherine, la maman de l'héroïne, depuis une 60aine d'années. Il vient de la même ville qui s'appelle Saint-Fra. Une petite ville en Côte d'Ivoire, et lui, donc, il a toujours rêvé d'elle, elle était un peu plus âgée, donc il la retrouve 60 ans plus tard, complètement par hasard à Paris, ils se mettent ensemble, et c'est une histoire d'amour. Et la narratrice a du mal à se représenter sa mère comme une jeune femme sexy et désirable. Voilà, c'est frais, ça dure 18 minutes, et c'est sur arteradio.com. Donc allez-y, faites-vous plaisir.
Très corpo, Kevin.
C'est ça. Et puis la deuxième recommandation, c'est américain. C'est un film qui s'appelle Amateur, en anglais. C'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Ryan Coo. Alors, pas Ryan Coogler.
Moi, j'ai sursauté.
Juste
Ryan Coo, t'imagines le mec, comment il doit être trop
comme,
mal.
Bah, Michael B. Jordan.
Ouais, c'est ça. Donc Ryan Coogler, c'est celui qui a fait Black Panther,
voilà. Entre autres.
Mais Ryan Coo, donc lui, c'est un jeune réalisateur qui donc fait ce film Netflix qui s'appelle Amateur, où on suit Theron, un jeune prodige de 14 ans qui se voit offrir une bourse pour jouer au basket dans un lycée d'élite.
Odds of getting into the NBA. Talent and hard work aren't enough. You also need someone in your corner who knows the system and how to play it for you. Coach Gaines, Liberty Prep.
We're offering your son a full ride scholarship, and that's how much we believe in his potential.
L'acteur principal, il s'appelle Michael Rainey Jr. et il s'en sort très bien. Il a une très bonne tête. On l'a déjà vu dans plusieurs films, notamment dans Le Majordome, où il joue le personnage de Forest Whitaker enfant.
Mm-hmm.
Il ressemble un peu à Chance the Rapper.
C'est vrai.
Donc le film est très réaliste, a même des aspects de drame social. Donc son père, c'est un ancien joueur de football américain qui souffre de problèmes neurologiques parce qu'il a probablement eu des chocs crâniens. Il y a une scène aussi où le jeune héros qui a 14 ans se balade dans les rues de sa ville avec une capuche sur la tête. Puis il entend une sirène de police et il enlève la capuche directement. Il veut pas devenir un hashtag. L'intrigue principale, ça concerne l'école pour laquelle il joue et qui utilise des méthodes peu conventionnelles pour recruter les jeunes joueurs. On leur promet une éducation de qualité sur le papier, mais en réalité, tout ce qui compte, c'est le résultat de l'équipe. Et puis en plus, ça fait des minorités ethniques dans des écoles d'élite qui sont toutes très blanches. De façon plus globale, il y a une vraie réflexion sur la question des joueurs amateurs mineurs qui jouent pour des établissements qui se font plein de fric avec les sponsors, les droits télé. Et tout le monde se remplit les poches, sauf eux.
Sauf eux.
Sauf eux.
Qui n'ont pas de quoi manger. Quoi.
Voilà, parce que les amateurs n'ont pas le droit d'être rémunérés. Souvent, ces mêmes amateurs sont des enfants issus de minorités et ou de milieux sociaux défavorisés. Donc voilà, je vous recommande ce film, c'est hyper intéressant, c'est pour toute la famille, c'est pas du tout misérabiliste. Et puis il y a un vrai suspense jusqu'à la fin, même si la
sera-t-il payé ?
La fin n'est pas totalement complètement crédible, mais voilà, c'est optimiste et c'est cool.
Donc, moi j'avais vu le trailer et j'avais trouvé ça très cool et je m'étais mis dans ma watchlist. Celle où il y a déjà Atlanta, vous savez.
Oui, c'est ça. Et puis juste pour finir, c'était les 50 ans de la mort de Martin Luther King. Je me suis gavé de podcasts sur Martin Luther King. J'ai appris plein de trucs, notamment dans un podcast qui s'appelle Radio Atlantique, du média Atlantique. Et il y a un épisode où il recommande de lire la lettre de Birmingham, qui est en fait un texte que Martin Luther King a écrit en prison. Et c'est un texte écrit par Martin Luther King en colère. Donc ça fait plaisir de ne pas le voir dans la bonté, la gentillesse.
Disney,
voilà, ouais, exactement. Ouais. Il s'en prend directement à des ecclésiastiques blancs qui en gros comprennent pas les méthodes de Martin Luther King et il leur répond un peu en mode vénère. Et donc j'ai trouvé ça cool.
Fuck you.
Quand même pas, mais pas loin. François ?
Moi, c'est marrant, j'ai passé l'épisode entier à parler de musique, quand j'y pense, rap, dépression, Drake.
Bah, quand on aime un truc, hein
Quand on aime, on ne compte pas, hein, dis donc. Ouais, je vais encore vous parler de musique, je vais vous parler d'une rappeuse que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Cupcake. Ça s'écrit comme un cupcake, mais avec deux K.
Oui, ce que j'allais dire, comme Bukake, en fait.
bravo, voilà.
Ah putain, j'allais dire, ça s'écrit comme 2K et non pas 3K comme Ku Klux Klan, mais tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied.
Non, coupe ça au montage.
Non, mais alors absolument pas.
C'est ton mec
qui
s'est
non, mais ça, c'est l'insert, c'est le début de l'épisode.
Ouf. I thought I came, but I peed on a dick. Pubic hair got inches, that's weave on a dick. Pussy like a tree, it got leaves on this shit. Bang, bang, this pussy cheap, keep with the dick. Climbing on that dick, need a 10-foot ladder. I love the D, that's my favorite ladder. My news in your phone, taking up your data. My cakes got better, bad use it, come as a batter. Look down to your dick and tell him I won't disappoint it. Alors, Cupcake, c'est une rappeuse de Chicago, Illinois. Qui a plusieurs albums à son actif, dont deux albums, on va dire, officiels. Il y a un album qui s'appelle Queen Elizabeth, qui est sorti en 2017. Et l'album que je vous conseille, que j'ai écouté, s'appelle Euphorize, et qui est sorti donc en janvier dernier. Alors,
c'est pas tout public, c'est pas comme amateur le film que je recommandais.
Voilà, ceci est une rappeuse PG-18. Voilà. Disons que j'ai jamais entendu de contenu sexuel aussi explicite et aussi frontal et en même temps très drôle, voire drôlatique vraiment. C'est un excellent album qui mélange à la fois de la dream music traditionnelle donc de Chicago, de la trap plus mainstream, plus classique, mais également des petits éléments de bounce music et même parfois des éléments de tropical pop, puisqu'évidemment il en faut partout. Faut imaginer une femme noire en léger surpoids avec des tenues très très extravagantes. On dirait un peu une performeuse de la Nouvelle-Orléans justement. Donc et d'ailleurs c'est une artiste très vocale en faveur des communautés LGBT. Il y a un morceau d'ailleurs sur l'album qui s'appelle Crayons où le refrain fait boys on boys on boys, girls on girls on girls. Donc voilà, elle est très là-dedans et c'est un peu son univers. Et donc elle parle beaucoup de liberté sexuelle et j'ai rougi par moments.
J'en rougis François.
Oula, elle a fait rougir François Oulak, attention. In my tummy equals up to your rent money. Don't let your nigga play you like he's Stevie. He do a triple take when he see me. I might just talk to him real briefly. Tell him to drop you off and come eat me. That's if you like it or not. I'm a businesswoman off top. I'm not on Facebook cause my Facebook don't every fucking flyer that drop. Elle démontre des capacités de flow et de schéma de rime. J'étais vraiment
estomaqué. C'est vraiment une rappeuse ultra complète et faut pas seulement la considérer comme une sorte de blague.
J'ai une question. Est-ce qu'elle est disponible en juin pour l'hymne national belge? Du coup, Damso est pas dessus. Est-ce que du coup, elle non?
Et on pourra pas attaquer sexisme.
C'est ça. Voilà.
Bref, écoutez, Euphorize de Cupcake.
Eh bien voilà, encore un épisode de qualité qui s'achève. C'était le chip, on revient dans 15 jours. Je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter, à diffuser. Laissez-nous une review sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux @lechippodcast sur Twitter et Instagram. Cet épisode a été réalisé par Charlie Marcellet.
J'ai essayé de faire un bruit. Juste, on a parlé de nous dans France Culture, ça veut dire qu'on va conquérir le monde, un de ces quatre.
C'est vrai, on est passé sur France Culture dans du grain à moudre.
Ouais.
Et le nom de l'épisode, c'était « Y a-t-il un problème de représentation des Noirs dans les médias français ?»
Absolument pas.
Le problème, c'est nous.
Virgule, lol. Donc voilà. Ben voilà, c'est tout pour nous.
Bisous.
Bisous.
Salut.
À dans 15 jours.
Arte Radio. Comme.